Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se
lève. Salut Michel.
Comment aimes-tu ma voix ce matin?
Là, vous êtes qui, vous?
Ben, c'est moi.
J'ai retrouvé mon homme.
Écoute, il y avait des tampons à récurer, tu sais, métalliques de ça, sur le balcon, tout ça. Puis ça...
T'es sorti
on a tout nettoyé ça. On est sorti du comptoir.
Du costume du bonhomme carnaval.
Bon, on a fait ça comique.
Ah, absolument, je suis très drôle d'ailleurs. Je te remercie de souligner mon excellent sens de l'humour ce matin.
Oui.
Non, ça sonne comme une tonne de briques, j'en suis presque ému.
Mais c'est pour. On a fait ça spécialement pour le début de la série mondiale.
Bon, c'est parfait, ça commence ce soir.
Je sais pas s'il y a beaucoup de gens au Québec qui vont s'accrocher à la série mondiale parce qu'il y a beaucoup de gens un peu comme le hockey qui n'écoutent pas. Le hockey durant la saison régulière, mais qui sont là en série éliminatoire. Au baseball majeur, je te dirais que personnellement, cet été, je n'ai pas suivi ça beaucoup. J'ai regardé quelques matchs quand je n'avais rien d'autre à faire.
Ouais.
Mais durant les séries éliminatoires, je n'ai rien manqué. Et j'ai beaucoup d'intérêt pour cette série qui commence ce soir. La seule affaire qui m'énerve, c'est que les matchs ne commencent pas avant... Je pense que le premier lancé est à 20h15, ouais. 20h08 ou 20h09.
20h09 précisément.
Ah, écoute, ça finit plus.
Oui, je le sais.
Ça finit plus. Écoute, là, il faut que tu te couches pas avant minuit. Les matchs sont interminables. On oublie les règlements qui sont instaurés en cours de saison. On laisse... imagine-toi, lorsqu'on va voir David Price au Monticule pour les Red Sox lors du match numéro 2, je pense que l'autre fois, ça a pris 53 secondes en deux lancés. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et avoir des matchs aussi longs, ça diminue l'intérêt pour les gens. Parce que le baseball, c'est un sport qui est lent. C'est un sport qui s'écoute d'ailleurs très... C'est le sport parfait pour la radio. Mais pour la télévision, à un moment donné, là, réveillez-vous, mettez de l'action. Là, parce que, tu sais, quand que bon, une fausse balle, une prise, hein, on va parler au lanceur, ça finit plus.
Mais tu as même le temps de regarder ton monsieur dans les estrades avec sa conjointe. Là.
Et d'ailleurs, elle était de retour en fin de semaine. Mais j'ai hâte de voir s'ils assisteront au match de la série mondiale. Ça, c'est une autre affaire.
Hey, Michel, parle-nous donc à l'époque, parce que tes souvenirs se rendent sûrement jusqu'à 1916, à l'époque où les Dodgers et les Red Sox... À l'époque où Babe Ruth avait lancé un match complet, c'est la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées. Tu t'en souviens, Michel?
Je m'en souviens très bien. Je n'étais pas là, mais il y a quelqu'un qui me l'a rappelé. Ah,
okay.
Mais je dois te dire que je favorise les Red Sox. Sais-tu pourquoi?
Vas-y.
Les Red Sox, c'est la seule équipe qui a réussi au cours des séries éliminatoires du baseball majeur à battre deux équipes qui avaient remporté plus de 100 victoires. Les Yankees, qui en avaient 100 au compteur. Les Astros de Houston, qui en avaient 103. Et quand puis ça, ils ont fait ça en prenant seulement 7 matchs. Ils n'ont subi que deux défaites en séries éliminatoires. Tu regardes d'autres statistiques, parce que le baseball, c'est vraiment un sport de stats. Les Red Sox ont gagné 16 matchs de plus en saison régulière que les Dodgers.
Ouais.
Fait que ça te donne une idée. C'est le troisième plus grand différentiel de l'histoire des séries mondiales. L'attaque des Red Sox. Écoute, les lanceurs des Astros représentaient le personnel des lanceurs, l'un des meilleurs du baseball majeur. Eh bien, en 5 parties, les Red Sox ont marqué pas moins de 29 points. Et ça, sans que Mookie Betts et J.D. Martinez, qui sont leurs deux moteurs, là, ne soient vraiment efficaces. Ce sont des joueurs comme Jackie Bradley Jr. qui ont fait la différence. Lui qui a produit 9 points en série éliminatoire pour être choisi le joueur par excellence des séries éliminatoires. Et leur alignement de frappeurs, du premier au 9e frappeur, c'est exceptionnel. Et contrairement aux Dodgers qui ne sont pas vraiment des frappeurs disciplinés, parce que eux autres, ce qu'ils cherchent, c'est toujours le grand coup, tu sais, le coup de circuit, alors que les Red Sox vont jouer, à l'image de leur gérant, un baseball un petit peu plus traditionnel.
Ouais.
Ils sont prêts, comme on l'a dit la semaine dernière, de faire les petites choses qui font la différence au baseball.
Mais...
Et la défensive des Red Sox de Boston est supérieure à celle des Dodgers de Los Angeles, particulièrement au champ extérieur. Écoute, il y a 3 joueurs de chansons qui évoluent au poste de voltigeur chez les Red Sox. Benintendi, Bradley et Mookie Betts. Fait que tu sais, là, non, avec
c'est
ça...
c'est une excellente équipe, là, on s'en
et l'autre affaire, ouais. Et l'autre affaire, c'est la température. Ce soir, on s'attend à ce que le match, on devrait commencer aux alentours de 10 degrés Celsius.
Ah.
Pour le match de ce soir. On prévoit de la pluie aujourd'hui à Boston. Mm-hmm. Ça devrait s'arrêter en fin d'après-midi. Donc, ça va être humide et froid.
Ouais.
Et les joueurs des Dodgers sont un petit peu momounes dans ces conditions-là.
Ils ne
sont pas habitués.
Non, mais...
Donc, écoute, là, ça va avoir son importance parce que les deux premiers matchs sont disputés à Boston.
Ouais.
Les trois suivants à Los Angeles. Et les deux derniers, 6 et 7, devraient avoir lieu au Fenway Park.
Mais
donc, à ce moment-là, oui? Oui,
mais deux points pour moi qui avantagent les Dodgers, OK? Moi,
bon, oui,
moi je bon. Non, mais côté, est-ce que je me trompe? Puis dis-moi si je suis dans le champ. Les releveurs des Dodgers ne sont pas supérieurs aux releveurs des Red Sox? Ils n'ont pas une meilleure fiche, globalement?
Oui, mais ça dépend de quelle façon. On l'a vu en série éliminatoire, parce que les séries 2018 seront sous le signe d'une utilisation très particulière des releveurs.
Ouais.
Donc, on a vu les releveurs utilisés, au lieu d'envoyer ton closer en 9e manche pour protéger le match, on a vu les closers arriver dans le match cette année en 4e et en 5e manche lorsque la situation l'exigeait.
Ouais.
Donc, ces stats-là au niveau des releveurs, je pense qu'il faut en prendre puis il faut en laisser. Dans des circonstances traditionnelles, je te donne raison.
Ouais.
Mais dans des circonstances particulières, et je me demande si ça va pas faire école sur ce qu'on a vu en série éliminatoire au cours de la prochaine saison.
Ah,
on amène les meilleurs lorsque la situation est critique.
Mais...
Fait qu'à ce moment-là, mais ce qui est arrivé, c'est que le lanceur, le releveur principal des Red Sox, j'oublie son nom, n'a pas été à son meilleur et c'est le petit coup de téléphone d'Éric
Gagné
qui l'a replacé.
Ouais.
Ça fait que, c'est pour ça que je te dis, ça c'est un point.
Okay.
Normalement, dans des circonstances régulières, il y a un léger avantage au niveau des releveurs des Dodgers. C'est ton deuxième point?
Oui, mais en fait, c'est que quand ils vont jouer à Los Angeles, Michel, il n'y aura pas le frappeur désigné. Donc, entre guillemets, ça donne un peu un répit aux Dodgers. Ils ne sont pas avantagés quand ils jouent à domicile?
Oui, mais tout dépendant de quelle façon le match va se dérouler. Oui,
c'est sûr.
Si c'est un match à haut pointage, parce qu'écoute, il y a des sacrés bons lanceurs, là. On ne s'imagine pas que tous les matchs vont se terminer 11 à 8. Là.
Non, je pense
normalement,
pas, non.
Ça devrait être plus serré. Et la présence du frappeur désigné, c'est là que le rôle des gérants dans l'utilisation de leurs lanceurs de relève va être important. Parce que si tu amènes des releveurs tôt et tu échanges souvent, ça t'amène d'autres changements dans ton alignement.
C'est vrai.
Donc, tu fais appel à la profondeur de ton équipe. Et je te dirais qu'à quelque part, peut-être qu'il y a un léger avantage du côté profondeur chez les Dodgers que du côté des Red Sox de Boston.
OK.
Fait qu'écoute, ça va être une série. C'est plein de certitudes et autant d'inconnus dans cette série-là. J'ai hâte de voir de quelle façon il y aura beaucoup de pression sur les deux releveurs, sur les deux gérants, Alex Cora et Dave Roberts.
Ça, c'est sûr.
Ça fait que j'ai hâte de voir de quelle façon ils vont diriger leurs équipes.
C'est quoi ta prédiction?
Les Red Sox vont gagner.
En quoi? En combien?
Je pense que les Red Sox vont gagner en 6 parties.
Okay.
Il s'agit pour eux, je pense que dans les deux premiers matchs, ils sont largement favoris à cause de la température.
Peut-être.
Ça va dépendre comment David Price va se comporter au Monticule lors du match numéro 2, mais il s'agit pour eux que d'aller gagner un seul match à Los Angeles et revenir à Boston pour le match numéro 6 dans des conditions encore plus difficiles.
T'es rendu trop loin. Attends un petit peu. Bon, moi, je dis les Dodgers en 7, on s'en reparlera. Hey, question pour toi. Hier, à l'antichambre, j'ai entendu quelque chose que je trouvais intéressant. Vincent Danfous a dit la chose suivante.
Ouais.
C'est quand la dernière fois que Carey a gagné une partie à lui seul? Quand est-ce que Carey Price a volé le match? Je m'en souvenais pas, Michel. Longtemps.
Je pense qu'il faut se reporter, c'est tôt en la saison dernière. Je pense que c'est au début de la dernière année. Je pense qu'il y avait, en début de saison, il avait connu un fort match, mais c'est à peu près tôt. Est-ce qu'il est encore le meilleur gardien de but de la Ligue nationale? Non.
Non.
Est-ce qu'il est encore parmi les meilleurs? Probablement. Mais là, il va falloir qu'il oublie sa réputation puis qu'il commence à arrêter des rondelles. Moi, je ne lui demande pas de voler un match. Ce que je lui demande, quand c'est le temps de faire un arrêt, quand c'était dans le match contre Ottawa, par exemple, t'as pas le droit. L'équipe est quand même fragile. C'est une équipe qui doit travailler. Mm-hmm. Faut que les gars aient leur botte de travail, puis leur case de construction, puis le pied dans le plancher à tous les matchs, de la première à la dernière minute de jeu.
Absolument.
Fait que t'as pas de marge d'erreur. Et lorsque Price va accorder un mauvais but, ça veut dire que le Canadien, il faut qu'il redouble d'efforts. Puis ils ne sont pas capables de redoubler. Ben, ils sont déjà dans le plancher.
Ouais. José Théodore, un bon point, va dans le même sens que Vincent Danfousse hier. Dans sa chronique ce matin dans le Journal de Montréal, il dit il y a trois Carey Price. Il y a le Price nonchalant, celui qui est passif et qui se fait battre dans la partie supérieure du filet parce qu'il tombe rapidement sur les genoux. Il y a le Price qui veut trop en faire, celui qui est trop agressif et qui se fait prendre hors position. Et il y a le grand Carey Price, celui qui est imbattable, confiant et toujours juste dans ses décisions. On ne l'a pas encore vu cette année. Es-tu d'accord?
Mais dans la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui, là, on se pose la question sur Carey Price, mais combien de matchs vont voler les gardiens de but? Je pense que ça devient de plus en plus rare. Parce que là, oublie pas, là, on met l'accent est sur l'offensive.
Ouais.
Il y a plein de joueurs offensifs. On a voulu que le style de jeu de la Ligue devienne plus offensif. Il y a beaucoup d'avantages numériques. Les gardiens de but sont beaucoup plus sollicités. Des fois, ce n'est pas le nombre de lancers, c'est sur la qualité des occasions de marquer. Et je trouve que les gardiens de but sont plus sollicités que jamais. Sois correct, donne pas le mauvais but. On n'a jamais demandé à Grant Fuhr de sauver des matchs à Edmonton. On lui demandait, quand c'était le temps, fais l'arrêt. Moi, c'est ça que je demande à Carey. Comment tu en donnes trois?
Non, non, mais Michel, comment Grant Fuhr à l'époque des Oilers. Tu veux que je te rappelle son alignement devant lui?
Non, mais c'est ça que je veux dire. Ben, étant donné que les équipes misent sur la contre-attaque, les défenseurs viennent appuyer l'attaque, c'est le style que préconisaient les Oilers à cette... tout le monde en avant. Puis on va s'arranger que lorsque la rondelle va revenir dans ta zone. Moi, ce que je demande à Carey Price, fais-moi pas des matchs par-dessus la tête. Là. Donne-moi une performance régulière. Fais ce qu'Ante Niemi fait.
Ouais,
il va en donner trois, mais le quatrième, donne-le pas.
C'est vrai. OK.
C'est ça que je vais avoir de lui. Je peux pas lui demander l'impossible. Je peux pas lui demander l'excellence avec un E, mais même si t'es joueur le mieux payé, on l'a payé pour ce qu'il a fait et non pas ce qu'il va pour ce qu'il va faire.
Ah, c'est un bon point. Bon.
Fais un job décent. Donne-en pas un facile, au moins une moyenne d'un facile par match. Coupe-moi ça là, à un facile par trois parties, puis on va être bien content.
Exactement. Gabriel nous écrit « Je ne reconnais pas la voix de Michel Villeneuve, qu'il retourne dans le costume du bonhomme. Gabriel, je vous défends de retourner. J'adore ta voix ce matin. Tu sonnes comme une tonne de briques. Enfin! »
Tu savais pourquoi le bonhomme carnaval avait mauvaise haleine, hein?
Non.
Je peux pas le dire à la radio, mais vous pouvez l'imaginer.
Oui. OK. M'en doute, là, la ligne est moins bonne tout d'un coup.
Non. Là, tu pourras plus dire ça. La ligne est toujours bonne.
Elle est toujours bonne. Elle est obligée de te couper, de te censurer comme le Buck Mayhew. Salut, Michel.
Salut, Ben.
À demain, 7h50. Moi, c'est vrai, c'est un bon argument, ça. Je pouvais dire que la ligne était pas bonne. Non, c'est plus ça. Merci à notre patron, Stéphane, qui est allé porter une machine à Michel hier. Parce que la madame était tannée que ça sonne la cacane. La madame est tannée, ben. Ça réagit. Ça arrive à l'occasion.